Merci. Bonjour à tous et à toutes et merci de m'accueillir parmi vous. Effectivement, je crois qu'il y a, une évolution, enfin il y a un itinéraire là qui part un peu de travaux, notamment dans le secteur secondaire, dans le champ du travail social à une certaine époque. Donc il y a un peu plus d'une quinzaine d'années, et puis depuis 7-8 ans, davantage dans le champ de l'enseignement. Je crois que c'est effectivement ça, une orientation de terrain de recherche. Alors, je vous propose d'évoquer justement, en tout cas la commande que m'avait adressée Philippe Astier, c'était d'évoquer notamment quelques résultats d'un travail collectif qui a conduit à la parution de l'ouvrage « Comment les enseignants apprennent-ils leur métier ?» donc en septembre dernier, en 2008. Et alors, le titre proposé, c'est « Développement professionnel d'enseignants des premiers et seconds degrés ». Je voudrais juste donner quelques précisions en introduction. J'aurais dû probablement rajouter, je le rajoute oralement, développement professionnel d'enseignants des premiers et seconds degrés en cours de formation, notamment professionnelle deuxième année, c'est-à-dire d'IUFM, c'est-à-dire après le concours, et lors de la première année d'exercice, comme on a l'habitude de dire, comme T1, titulaire première année. Puisque l'essentiel des travaux de terrain, je vous en parlerai tout à l'heure, a concerné à la fois la période de formation, mais aussi de façon longitudinale, la période de première année de prise de fonction comme titulaire. J'aurais pu rajouter dans le titre « professionnalisation » aussi, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Finalement, j'ai opté pour « développement professionnel » parce que l'angle d'attaque, si je puis dire, c'est plus la façon dont les enseignants, stagiaires ou titulaires, vivent leur propre parcours. Et là, il y a probablement une différence que vous percevrez entre la journée d'hier et mon propos ce matin, puisqu'il s'agit moins, nous avons choisi de ne pas utiliser une approche ou un paradigme méthodologique de type analyse de l'activité, mais plutôt repérer l'évolution des significations que les individus accordent à leur itinéraire de formation, donc formation formelle, mais aussi sur le terrain. Donc ça veut dire des outils différents et des questionnements un peu différents. Donc c'est une autre façon d'entrer dans, finalement, l'apprentissage du métier. C'est plutôt s'intéresser, on pourrait dire, provisoirement, mais on pourra en rediscuter après, et tout ça, comme toutes les analyses en sciences humaines d'ailleurs, se discutent, ce ne sont que des grilles d'analyse qui sont proposées et qui sont là pour être discutées, justement. Mais notre entrée est plutôt une entrée par ce qu'on pourrait appeler les dynamiques identitaires, d'une certaine façon, comment les gens se positionnent, comment ils vivent leurs expériences. Alors, c'est un exercice qui n'est pas forcément, je suis toujours dans l'introduction, facile ce matin, parce que c'est un peu une première pour moi, puisqu'il s'agit de rendre compte de résultats qui ne sont pas liés proprement à mes travaux, mais enfin simplement à mes travaux, mais à des travaux, ce sont des travaux collectifs. Donc, je ne maîtrise probablement pas tout aussi précise que si je présentais mes propres résultats. Je vais essayer quand même d'insister sur des points qui me semblent importants dans notre travail collectif. Alors, quelques éléments de présentation pour terminer l'introduction. Donc, je rencontre là des résultats d'une équipe de recherche que j'ai le plaisir d'animer à Rouen, qui est composée de 7 enseignants-chercheurs et qui s'est constituée en 2003. L'intitulé de l'équipe, c'est « Professionnalisation des enseignants ». C'est une équipe de recherche rattachée au laboratoire civique qui est un laboratoire de l'Université de Rouen. Et nous avons engagé entre 2003 et aujourd'hui des travaux de terrain plutôt d'ordre qualitatif, avec, je vous en parlerai tout à l'heure, des entrées très très diverses, premier et second degré bien entendu, Et nous avons poursuivi récemment, quand je dis récemment, c'est l'année passée, par un travail, par une investigation plutôt de type quantitatif, avec l'élaboration d'un questionnaire touchant l'ensemble des stagiaires de deuxième année de deux IUFM, enfin de deux académies pour être précis, l'académie de Rouen et de Caen, et les mêmes personnes devenues titulaires dans les deux académies un an plus tard. L'idée étant d'essayer de comprendre comment les uns et les autres vivent leur développement professionnel depuis le moment de la formation, institué, prévu, et puis jusqu'à la fin de première année de titulaire. Donc c'est un vaste travail puisqu'on a recueilli un peu plus de 1000 questionnaires pour la première période, période de formation, deuxième année de formation, et puis un peu plus de 600 pour la deuxième période, c'est-à-dire en fin de première année. Donc tout ça est en cours d'exploitation, et d'une certaine façon, notre ambition, c'est d'essayer d'aller plus loin par rapport à des résultats qu'on a pressentis lors de ces travaux plutôt qualitatifs dont je vais vous parler aujourd'hui. En sachant que le questionnaire qui a été proposé a été conçu à partir, et ça c'était un choix de notre part, a été largement inspiré de ce qu'on appelle ce qu'on appelait à l'époque, en 2006 je crois, le nouveau cahier des charges de la formation des enseignants, vous savez, le référentiel des 10 compétences, en leur demandant, je n'en ai pas apporté un exemplaire et je ne l'ai pas mis sur le PowerPoint, mais en leur demandant de se situer en termes d'importance, de faisabilité et de développement pour chacune des compétences, de leur propre point de vue, avec quelques questions ouvertes. Donc ça permet de saisir de façon longitudinale des évolutions et tout ça. Bon, on a quelques premiers résultats qui arrivent là et intéressants. Alors, ce que je vous propose, c'est d'étudier évidemment... Ça sera un peu l'objet de ma présentation, ce que nous appelons les tendances communes et les particularités ou les singularités en s'agissant du développement professionnel des enseignants. Alors, petite précision, c'est développement professionnel d'enseignants et pas des enseignants. C'est important la nuance parce que les travaux que nous avons réalisés portent sur de petits échantillons. Donc, il n'y a pas de prétention à la généralisation. Bien sûr, on aura des résultats un peu différents avec cette deuxième phase d'analyse quantitative, mais pour l'instant, c'est relatif, évidemment, les résultats dont je vous parle sont relatifs aux échantillons investigués. La question est un peu sous forme de provocation, je dirais, qui est derrière cette étude, c'est est-ce qu'il y a un seul métier ou est-ce qu'il y a plusieurs métiers, finalement, d'enseignant, entre premier et second degré? Est-ce que c'est le même métier ou pas? Alors la question doit paraître étonnante, mais c'est une question qui, à mon avis, structure depuis assez longtemps les réflexions et l'organisation de la formation. Donc on a voulu, d'une certaine façon, la poser en filigrane dans nos travaux. Je vous propose de suivre, de présenter en 5 points les choses. Bon. D'abord un point concernant l'itinéraire, donc nos travaux entre 2003 et aujourd'hui, comment on a évolué par rapport à cette question du développement professionnel et pourquoi. Ce sera très rapide. Ensuite, un point un peu plus important, en tout cas j'y consacrerai un petit peu plus de temps, concernant les définitions que nous avons utilisées et construites. Les conceptions qu'on a donc mises en œuvre, en sachant que développement professionnel, professionnalisation, il y a des significations très très différentes attribuées aux mots. Donc il est normal et honnête que l'on donne à voir quelles sont celles qu'on a utilisées et pourquoi. Ça va, vous m'entendez bien? Oui. Ensuite, les choix méthodologiques qui ont été les nôtres dans ces travaux. Et puis, je finirai, bien entendu, par deux points importants, les tendances communes et les singularités ou les spécificités entre premier et second degré, évidemment, puisque c'est l'intention principale de notre travail. Donc, je vous propose, premier point, l'évolution de nos travaux depuis 2003 jusqu'en 2008. Alors, effectivement... Je pense qu'on peut prendre comme point de repère... Alors, je vous dis tout de suite, Je suis, j'aurais dû le dire en introduction, je suis en cours de socialisation s'agissant de l'utilisation du PowerPoint. Donc, je me suis rendu compte hier, et j'ai supprimé des choses, je me suis rendu compte que c'était pas un PowerPoint, parce qu'il y a trop de texte, quoi. Alors, j'espère que ça va quand même... Je vais commenter oralement, hein. Je promets de faire des progrès, mais tout ça, ça prend. Je me suis dit, une bonne façon de présenter les choses, c'est de reprendre les deux ouvrages. Non pas pour enfoncer le clou et faire de la publicité, hein, c'est pas ça, mais ce sont deux moments clés d'évolution de nos travaux. Le premier ouvrage, celui de 2005, donc a consisté, après deux années d'existence de l'équipe, à essayer de faire un point sur un certain nombre de travaux qui pourraient nous être utiles autour de la professionnalisation et du développement professionnel. On a beaucoup été influencé par notamment des travaux d'ordre sociologique. Je mettrai évidemment des travaux d'ordre sociologique liés à la sociologie des professions, mais j'en reparlerai tout à l'heure, ça n'a pas été une influence tout de même très forte pour nous, même si on a identifié et pris la mesure de ces travaux, et plutôt des travaux, je pense aux travaux notamment de Raymond Bourdoncle, mais aussi de Claude Dubar et d'autres, en essayant d'associer finalement professionnalisation, développement professionnel et puis construction identitaire, je vous en reparlerai tout à l'heure. Notre première façon de voir la professionnalisation des enseignants à cette époque, donc en 2005, consiste à dire finalement, il y a d'un côté une intention qui est celle d'une institution, d'une ou de plusieurs institutions, une intention de développement des personnes, et puis il y a de l'autre un processus évidemment de développement du côté des individus, ça va à peu près de soi, et donc essayons de mieux comprendre ce point-là. Cette articulation, c'était un peu l'objet de ce premier ouvrage qui a été produit à la suite d'un symposium proposé dans le cadre d'un colloque en 2004, le colloque de la ECSE, le colloque AREF. Le second ouvrage s'appuie beaucoup plus sur des travaux de terrain que le premier, puisque notre équipe a un peu mûri par rapport à cette question. Les travaux de terrain ont avancé. Nous avons un certain nombre de résultats aujourd'hui. Et très nettement, notre perspective consiste à dire aujourd'hui, finalement, le développement professionnel, ça se joue dans un... Je reprendrai ça tout à l'heure. S'agissant des enseignants, ça se joue dans une tension, on pourrait dire, ou une transaction entre ce qui est de l'ordre d'une offre externe, qui est relayée par l'institution, mais aussi par le terrain, et un itinéraire qui se construit. Et donc il y a une tension assez permanente, là, et persistante, et à certains moments, les individus, donc en deuxième année de formation, ou en première année de titulaire, d'année de titularisation, en première année de titularisation, doivent prendre des positions, d'une certaine façon. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, une proposition de définition, bon, c'est une définition que l'équipe, finalement, a adoptée au fur et à mesure du temps, parce qu'évidemment, quand on parle de professionnalisation et de développement professionnel, il faut un peu en saisir les contours. Alors, il y a plusieurs façons d'aborder la professionnalisation. Je ne vais pas, évidemment, développer complètement ce point. On pourra y revenir, si vous voulez, si on a le temps et si cela vous intéresse ensuite. Mais juste quelques mots pour dire que le mot professionnalisation, il existe dans les travaux depuis très longtemps. Hein, on pourrait dire depuis la fin du 19e, début du 20e. Je pense aux travaux anglo-saxons relevant de la sociologie des professions, que vous connaissez sans doute, pour une partie. Et puis on pourrait dire qu'il y a un sens premier du mot professionnalisation qui est d'une certaine façon la constitution des professions. Vous savez, le fait de dans les pays anglo-saxons on parle, et surtout aux États-Unis par exemple, où là il y a une tradition de travaux quand même sur cette question, on parle du passage d'une occupation à une profession. ça passe par un certain nombre de mécanismes. Et puis il y a deux autres sens qui apparaissent beaucoup plus récemment, et c'est ça qui nous intéresse beaucoup plus, je crois, aujourd'hui, et puis dans nos travaux, c'est ce qui nous a intéressé, c'est la professionnalisation, on pourrait dire formation, c'est-à-dire au sens de l'intention de formation des personnes, et puis donc on pourrait dire, pour faire simple, développement de savoir, de compétences, d'identité, enfin bon, il faudrait voir ce qu'on met derrière les mots, évidemment, ce sont des mots qu'on utilise tous. Et puis, il y a un troisième sens, beaucoup plus récent encore, me semble-t-il, qui est la professionnalisation, entre guillemets, efficacité du travail. Et je crois qu'on ne peut pas confondre les trois significations attribuées à ce mot. La professionnalisation profession, entre guillemets, ça renvoie assez bien, si vous voulez, à un sens investi par les groupes sociaux qui essayent de s'organiser en profession. Je laisse. Le mot professionnalisation formation, il est assez utilisé, il est beaucoup utilisé par les milieux de la formation, bien entendu. Et le troisième sens, professionnalisation efficacité du travail, il renvoie davantage à un sens investi par les organisations, on pourrait dire, bon, les entreprises, les institutions, qui, en direction de leurs salariés, finalement ont une intention ou affichent des dispositifs, leur proposent des dispositifs de travail et ou de formation visant à améliorer, j'allais dire presque en permanence, l'efficacité du travail. Alors ce sens apparaît, on le voit bien, avec des évolutions importantes du travail, notamment l'apparition d'un discours fort et de pratiques visant une flexibilité plus grande du travail. Donc on s'intéresse à l'adaptabilité des personnes et du coup à une nouvelle façon de concevoir ce qu'est un professionnel. Et dans, bon, je ne sais pas si vous partagez la même analyse, hein, on verra tout à l'heure, on en discutera, mais de ce point de vue, il y a une tendance commune, quels que soient les secteurs, comme si un nouveau modèle du professionnel apparaissait, qui n'est pas celui qui s'identifie à un groupe, qui n'est pas tant celui qui s'identifie à un groupe ou à un corps professionnel, mais qui est capable plutôt d'être un professionnel efficace, adaptable, et qui est plutôt capable de s'identifier au discours et au projet de l'institution dans laquelle il est. Et là, je crois que c'est important de dire ça. Alors, vous allez me dire, ce sont un peu des propos à l'emporte-pièce, on pourrait revenir et puis approfondir un peu, mais je crois qu'il y a de cela aussi dans notre institution, s'agissant de la formation des enseignants. Je crois que c'est un mouvement beaucoup plus large qu'on le pense parfois. Et c'est aussi pour dire que le mot professionnalisation, il est polysémique. Autant il y a un consensus lexical, on pourrait dire, tout le monde est d'accord pour utiliser le mot. Je ne suis pas sûr que tout le monde mette le même sens derrière le mot. Et on le voit bien, il y a au moins trois sens investis aujourd'hui dans les pratiques. Le deuxième et le troisième sont très présents. Le troisième est très présent quand c'est une institution qui parle de la professionnalisation de ses salariés, de ses acteurs. Le deuxième sens est très présent quand c'est un institut de formation qui parle de la professionnalisation de ses stagiaires, évidemment. Alors, bon, je voulais faire donner cette précision parce qu'elle me semble important. Autrement dit, ce n'est pas professionnalisation au sens de constitution d'une profession. Je crois que notre ministère de tutelle n'a pas l'intention de consolider, de créer une profession. Le problème n'est pas tant là. Je crois qu'il est au niveau peut-être de la deuxième définition, du deuxième sens, voire du troisième sens. Je crois que le troisième sens a beaucoup d'importance aujourd'hui. Alors, développement. Donc, tendance à considérer. Nous avons eu tendance à considérer dans nos propres travaux que la professionnalisation renvoie plutôt à cette idée d'une offre, d'une logique d'offre de dispositifs, de formation, mais pas seulement de formation, aussi d'adaptation de situation de travail, avec en arrière-fond un modèle ou une conception du bon professionnel. Et on le voit bien d'ailleurs, s'agissant, si je prends l'exemple du second degré, on voit bien que l'institution, si on prend le texte de 97 définissant les missions de l'enseignant du second degré, PLC, PLP, etc., on constate qu'il y a en arrière-fond un modèle de l'enseignant, du bon professionnel, qui n'est pas que celui qui maîtrise sa discipline, discipline, mais qui est capable de s'investir dans des projets dans l'établissement, de s'ouvrir à l'extérieur, de communiquer avec les parents, d'être un praticien réflexif. Ça, c'est un point qui fonde probablement, et qui, d'une certaine façon, c'est intéressant de le constater, est d'une inspiration très anglo-saxonne. Le modèle du praticien réflexif vient des travaux de Chris Argyris et Donald Shun, si vous les connaissez, des années 70-80, et ça structure vraiment le modèle du professionnel, tout secteur confondu aujourd'hui. On veut un professionnel qui non seulement sache faire, sache dire comment il fait, sache regarder ce qu'il fait pour pouvoir s'adapter au mieux à des situations changeantes et dans un objectif évidemment d'efficacité plus grande du travail. Donc professionnalisation, le mot professionnalisation, on l'investit très nettement comme étant du côté de la logique de l'institution, de l'offre, avec les enjeux qui sont derrière cette offre que j'ai commencé un peu à dépeindre, je vous prie de m'en excuser, un peu à l'emporte-pièce, mais c'est une question aussi de gestion du temps. Développement professionnel, renvoyant plutôt, mais ça c'est finalement un peu comme ça qu'on utilise le mot aujourd'hui, je pense, en général, plutôt à la façon dont les individus, les sujets, les individus, donc, se construisent, se transforment au fil de l'activité, au fil de leurs expériences, même s'il faudrait définir plus précisément les mots. Et on pourrait dire, en tout cas c'est une proposition, que professionnalisation et développement professionnel, ça correspond à l'articulation de trois choses. Alors là encore une défaillance de mon PowerPoint, il y a presque 5 lignes pour un paragraphe, c'est beaucoup trop, je vais le commenter. C'est à la fois, je crois qu'il y a les trois éléments qui sont articulés, c'est à la fois une intention. L'intention, s'agissant de la formation des enseignants, c'est bien l'intention qu'a l'institution, Éducation nationale, relayée par les IUFM notamment. On pourrait dire de mise en mouvement, c'est un peu comme ça qu'on lit les choses, des personnes, donc des enseignants, dans les systèmes de travail. Alors je vous avoue que c'est un vocabulaire peut-être un peu trop extérieur au champ de l'éducation, mais bon, l'enseignant est dans des situations de travail, hein. Par la prescription de compétences, c'est-à-dire que l'institution prescrit des compétences. Alors, on a été heureux de constater en 2006 que de ce point de vue, il n'y avait pas trop d'erreurs, puisque le nouveau cahier des charges de l'époque prescrivait 10 compétences. Avec l'enjeu de proposer 10 compétences communes, donc au premier ou au second degré. D'où la question que je posais un peu sous forme de boutade dans l'introduction, y a-t-il un seul métier ou deux ? Donc, il y a bien une intention envers les personnes, notamment de développer un certain nombre de compétences qui traduisent une certaine conception du bon professionnel, hein, à un certain moment, alors qui fait consensus ou pas dans l'institution, mais qui est là. Et d'ailleurs, ce serait intéressant, c'est une petite parenthèse, d'étudier la façon dont les textes sont produits par l'institution. Parce que j'aimerais savoir, mais peut-être avez-vous l'information, qui a produit le référentiel des 10 compétences. Est-ce qu'il a fait consensus à un moment dans l'institution, je s'entends le ministère, ou est-ce qu'il y a eu des débats? Comment?
Arbitrage.
Bon, donc c'est le plus petit dénominateur commun d'une certaine façon qui... et donc ça se traduit aussi par la proposition, bien entendu, de dispositifs, par exemple de formation, bien entendu, qui traduisent ces dispositifs une offre de professionnalisation, c'est-à-dire il s'agit de mettre les gens en situation de développer les compétences au travers de dispositifs qu'on propose. Donc là, c'est le volet professionnalisation. Deuxième volet... C'est aussi un processus de développement d'activités ou des activités, je ne sais pas, d'activités, des apostrophes ou des activités, enfin les individus, là on est du côté de l'individu ou du groupe et pas de l'organisation ou de l'institution, font des choses dans ces dispositifs. Et ils font des choses, par exemple dans le cadre de la formation, sur le terrain ou en IUFM, et ils demandent finalement une reconnaissance par l'institution ou par l'organisation de ces choses, et notamment des apprentissages qu'ils développent à cette occasion. Et donc il y a un processus, on pourrait dire, c'est le troisième point, de transaction ou négociation, je ne sais pas quel mot il faut utiliser, entre l'individu et l'institution, ou les groupes et l'institution, l'idée étant effectivement de se situer entre ce qu'on nous offre ou ce qu'on nous demande de faire, le modèle qu'on nous demande de suivre, et ce que l'on a développé, et ce que l'on est prêt à accepter de développer, et ce que l'on veut voir reconnaître. Et il y a une tension là, une transaction qui est au cœur, à mon avis, de ce qu'on peut appeler la professionnalisation et le développement professionnel aujourd'hui, entre une offre de l'institution professionnalisation et une dynamique de développement des personnes. Et il y a des itinéraires individuels et collectifs qui ne sont pas toujours congruents avec ce que prescrit l'institution et ce que l'institution est prête à reconnaître. Donc là se joue un mécanisme, on pourrait dire de régulation sociale si on utilisait une perspective de cet ordre-là. Donc tout cela pour dire que notre approche de la professionnalisation et du développement professionnel est très empreinte de cette... on a choisi de l'aborder sous la forme d'une transaction identitaire dans ce sens-là. Vous voyez, donc la perspective n'est pas la même que celle que vous avez évidemment travaillée hier. Alors, petit schéma, j'en suis pas absolument satisfait, mais j'espère qu'il passe assez bien. Ça va ? Non.
Non, c'est difficile à mettre sur le fond gris.
Ce petit schéma pour essayer d'expliquer finalement comment se joue cette transaction entre développement professionnel et professionnalisation et comment on l'a investi dans notre travail. D'un côté, il y a le développement professionnel. Vous voyez, c'est le premier encadré en vert que vous voyez en haut à droite, qui relève de l'individu, du sujet. C'est ce qu'il fait finalement. Ce qu'il fait, ça renvoie, ce que vous avez à gauche en bleu, à l'activité. Cette activité, ça vous donne un peu à voir nos champs de référence, qui sont multiples. On la définit volontiers, notamment en lien avec et sous l'influence des courants interdisciplinaires de l'action située, par exemple. Bon, je pense à des approches différentes qui existent à la fois en sociologie et en économie. Et puis, en empruntant aux travaux de Norbert Elias, un sociologue, la notion de configuration, On a tendance à définir l'activité comme étant une configuration, un système d'interdépendance entre l'individu qui agit, son activité bien sûr, et l'environnement. Et ce système d'interdépendance, c'est un système de transformation réciproque. Quand l'individu agit, il transforme l'environnement, mais il se transforme aussi. C'est très constructiviste, tout ça, finalement. Mais c'est aussi le support ou l'occasion de développement d'affect, de signification et bien sûr d'apprentissage. Donc, l'individu agit et au fil de l'action, il y a des choses qu'il apprend. Et il donne à voir à son environnement ce qu'il fait. Ou en tout cas, il donne à voir au travers de ce qu'il fait une certaine image de ce qu'il est. Et c'est l'idée de la flèche à gauche qui part vers le bas, c'est-à-dire qu'il y a finalement, à un certain moment, une demande de reconnaissance adressée à l'environnement. L'environnement est caractérisé par un tiers. Je ne sais pas si j'explique très clairement le schéma, d'ailleurs. Ce tiers, ça peut être l'institution, ça peut être le formateur pour un enseignant en formation, ça peut être l'IUFM, etc. C'est celui qui va porter un regard double. Un regard par anticipation de prescription de compétences, c'est-à-dire il va demander à ce sujet de développer des compétences en conformité avec le modèle qu'il se fait de ce que doit être un bon professionnel. Donc c'est ce que vous avez le mot compétence en rouge attendu à gauche. Et en même temps, ce tiers, il va attribuer... Alors c'est une certaine façon de définir le mot compétence. On peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord. On pourra en discuter après si vous le souhaitez. Il va attribuer une qualité à un individu qu'on va appeler compétence à partir du constat que son activité mène à une réussite. Et évidemment, voyez là qu'en utilisant cette définition, en proposant cette définition du mot compétence, on est moins en train de dire que la compétence est une propriété intrinsèque des personnes. C'est plutôt l'activité qui est du côté des sujets, des personnes, mais c'est plutôt une propriété attribuée par l'environnement à partir du constat que l'activité faite par un sujet a mené à une réussite. Alors ça dépend des critères d'évaluation que chacun a. Et donc chacun peut attribuer des compétences et parler de l'activité de l'autre en parlant, en évoquant des compétences différentes, parce que les critères sont évidemment différents. Et ce qui est assez frappant, c'est que quand on regarde dans d'autres secteurs le discours et les pratiques liées à la professionnalisation, systématiquement, enfin, on ne parle pas de professionnalisation sans parler de compétences. Donc les deux mots sont très fortement attachés. Et on voit entre les deux, finalement, quelque chose qui est de l'ordre d'une négociation identitaire. L'enjeu, finalement, de la professionnalisation et du développement professionnel, c'est la reconnaissance et l'attribution d'une place dans un système de travail. Donc là, c'est vrai, à un certain moment, il y a le sceau donné par l'institution, vous êtes un enseignant. Je ne sais pas si le schéma est très clair. Vous voulez que je reprenne des choses? Donc, un questionnement plutôt présenté sous forme d'affirmation, d'ailleurs, ici, commun à nos travaux de recherche. On s'est dit, bon, ce qui nous intéresse, c'est d'essayer de comprendre le développement professionnel des enseignants dans trois espaces articulés, mais c'est assez lié à nos terrains. L'espace de la formation formelle, donc en IUFM, l'espace de la transition, de l'articulation travail-formation entre IUFM et terrain, et puis l'espace qu'on pourrait appeler du travail investi, si on paraphrasait un peu, notamment Yves Schwartz, qui utilise beaucoup ce mot investi. Donc ça correspond à trois dynamiques qu'on questionne, en tout cas une dynamique de transformation, production de connaissances et de compétences, on pourrait dire aussi de savoir, etc. Bon, on pourrait multiplier le nombre de mots, mais qui sont pour nous, je ne sais pas si c'est clair dans mon propos, des étiquettes sociales, c'est-à-dire connaissances, savoir, compétences. C'est finalement, ce sont un peu des concepts sociaux, ce qui nous paraît être plus en lien avec ce que fait l'individu, c'est évidemment l'activité telle qu'il peut en parler, mais aussi telle qu'on pourrait la voir et la saisir. C'est aussi une dynamique de transaction entre une offre institutionnelle de professionnalisation, je ne reviens pas, j'en ai parlé, un mode de contrôle des professionnalités via l'inspection, l'évaluation, et des modalités effectives de construction de celle-ci comme enseignant stagiaire, c'est-à-dire que l'enseignant stagiaire puis titulaire, ben, il a à se débattre en quelque sorte dans les situations qu'il rencontre, pour construire des réponses à des questions qu'il se pose, et ça vient parfois en congruence ou en conflit avec ce qu'on lui dit ou ce qu'il fait par ailleurs. Et puis c'est également une dynamique de transaction biographique, c'est-à-dire si on paraphrasait un peu Claude Dubard, vous savez, c'est l'une des deux transactions dans la construction identitaire qu'il développe, c'est-à-dire entre ce que l'individu était auparavant, comment il vit sa trajectoire en continuité ou en rupture. Et donc tout ça intervient, finalement, on n'est pas seulement dans de l'opératoire, mais on est beaucoup aussi dans du, entre guillemets, symbolique, de l'affectif, des significations accordées aux situations, etc. Les choix méthodologiques. Je le disais tout à l'heure, pas tant une démarche d'analyse de l'activité, hein, au sens, on a pu vous en parler tout à l'heure, hier, même si c'est une approche c'est une approche qui, il y en a d'autres, celle de la didactique professionnelle. On n'a pas souhaité mener des observations, c'est vrai et faux à la fois, puisqu'il y a eu quand même, enfin, deux d'entre nous ont réalisé des observations, mais l'idée c'était surtout d'essayer de repérer le rapport qu'entretiennent les personnes avec leur propre parcours. Finalement, comment parlent-ils de leur transformation au cours de la formation, deuxième année après le concours, et au cours de cette première année de titularisation, en se disant que ce temps de formation et ce premier temps de titularisation sont des temps privilégiés pour saisir à la fois les ruptures et les constructions qui peuvent s'opérer. Alors nous avons fait des choix, notamment des petits échantillons, Bon, j'ai mis ici plutôt illustratif que représentatif, c'est-à-dire on a cherché une diversité assez importante, vous allez le voir, puisque évidemment il s'agissait de couvrir premier et second degré, donc certains d'entre nous se sont intéressés plutôt au premier degré, et notamment à la fois, c'était un angle d'approche intéressant, aux apprentissages, ou en tout cas à l'activité développée dans les établissements, dans les équipes enseignantes, c'est-à-dire comment finalement des apprentissages collectifs à un certain moment, et comment la construction du métier se fait aussi de manière collective. Quelle est la contribution du collectif à cela? Ensuite, l'un d'entre nous s'est intéressé à la transition s'agissant donc de professeurs des écoles, formation et travail, notamment le passage, donc le suivi avec des entretiens successifs en cours de formation et jusqu'à la première année, la fin de première année de titularisation, comment donc le point de vue sur l'activité et la construction du métier changeait. Et puis d'autres parmi nous a étudié plutôt, et j'en reparlerai tout à l'heure, ça fait partie des résultats, je crois, importants sur la question, les problèmes que se posent les enseignants en cours de formation et comment ils évoluent. Et ça, c'est une entrée, je crois, intéressante. Parmi nous a étudié particulièrement les moments. Et ce sont des moments cette fois-ci de formation, mais ce sont des moments aussi d'articulation travail-formation, ce sont des moments d'analyse de pratique en formation. Et comment ça contribue aussi à donner à voir d'une certaine façon cette transaction identitaire dont je parlais tout à l'heure. Alors, essentiellement, donc, je passe rapidement, des entretiens semi-directifs, bon, et puis quelques observations, notamment les séances d'analyse de pratique. Alors, quelques résultats, tendance commune et spécificité ou singularité comme vous voudrez. D'abord les tendances communes. Je le mets en premier, j'aurais peut-être dû le mettre en dernier, mais ce qui ça s'est construit finalement au fur et à mesure, mais il y a bien de l'ordre. Et je le mets il y a bien de l'ordre d'une transaction identitaire dans ces deux années. Une année de formation et première année de titularisation. Ce qui apparaît très nettement dans les entretiens que nous faisons, c'est que le positionnement comme stagiaire n'est pas facile entre des discours différents, mais vous le savez d'expérience aussi, puisque vous intervenez pour un certain nombre d'entre vous en formation d'enseignants, entre le discours sans porter de jugement en disant il y a le bon discours, il y a le mauvais. Peu importe, il y a des différences de discours, notamment entre le terrain et les lieux de formation et l'accompagnement sur le terrain. Et ça, ça apparaît comme étant le discours de l'institution via l'organisme de formation. C'est bien l'offre, c'est le discours institutionnel. Et puis il y a un discours sur le terrain qu'on pourrait appeler, si on faisait un clin d'œil aux travaux d'IFCLOS, on pourrait parler du poids du genre d'une certaine façon, c'est-à-dire ce que les pères expérimentés disent de ce qu'est le bon métier. Et comme dit souvent IFCLOS, on apprend d'abord le genre avant de développer son style. Et bien là, ça pose des problèmes, quoi, parce qu'en même temps, les stagiaires sont sommés de développer leur style au moment où ils doivent apprendre le genre et recevoir le discours de l'institution. Tout ça constitue des désaccords et des sources de tension énormes. En tout cas, ça apparaît très nettement dans les travaux de terrain. Alors, autre point, autre tendance commune, le développement professionnel, il passe, et ça c'est un point qui me semble vraiment un point important, bon, autant que le premier, hein, mais j'inciterai un peu davantage, il passe aussi par l'élaboration de problèmes professionnels. À un certain moment, tout se passe comme si le fait d'apprendre son métier, si je reprends cette expression, ça consiste à identifier des problèmes qui sont des nœuds liés à l'exercice du métier, justement. Et au fur et à mesure de la formation, et on le voit bien quand on regarde comment se déroule, et c'est ce que l'une d'entre nous a fait, les séances d'analyse de pratique et ce qui se dit, ces problèmes professionnels, ils s'instruisent entre pairs, et notamment les moments de formation sont des moments clés. Et notamment l'analyse de pratique, mais il y a d'autres moments, hein. Il y a le moment, il y a la machine à café, il y a etc. On sait bien que ce sont des moments importants aussi. C'est-à-dire qu'il y a l'un des enjeux, c'est finalement de se dire bon, on apprend le métier lorsqu'on réussit à construire des éléments de réponse provisoires qui seront remis sur le chantier, si je puis dire, régulièrement tout au long de sa vie professionnelle, mais des éléments de réponse provisoires à propos de questions clés. Vis-à-vis desquelles on est, enfin, des questions clés qu'on est obligé de se poser et qui sont des questions clés qui structurent finalement l'exercice du métier. Et là, il y a des questions clés un peu communes, premier et second degré, bon, j'en ai listé quatre, notamment est-ce que la même règle pour tous est équitable, ou est-ce qu'il faut différencier ? C'est une question, un problème que se pose finalement lors de l'apprentissage du métier tout enseignant, à un moment ou à un autre. Et donc il apporte encore une fois des réponses qui sont des réponses provisoires, qui seront remises en chantier. C'est ça l'idée, c'est pas que l'on solutionne définitivement la question et le problème en formation, ou pendant ces deux premières années, mais on voit bien que c'est un problème qui revient régulièrement. Mais vis-à-vis du, mais on a besoin de l'identifier, sinon on passe à côté de quelque chose dans la construction du métier. Et de toute façon, ce sont des réponses qui ensuite varieront au gré de l'expérience. Que signifie bien se tenir en classe ? Alors là, on imagine que c'est très variable aussi selon les lieux, les publics. Est-ce que c'est obtenir le silence ? Est-ce que c'est qu'est-ce que ça signifie bien se tenir en classe ? Quelle modalité d'évaluation choisir et selon quel équilibre ? Autre problème professionnel, on pourrait dire que c'est un problème, c'est un des problèmes qui structure et même. Alors je ne sais pas si ça fait partie des questions que vous continuez à vous poser comme enseignant ou enseignante, mais moi je continue à me la poser en permanence, c'est-à-dire c'est vraiment un problème professionnel au sens où on n'a pas de solution de réponse définitive, mais on doit se le poser, ça fait partie de l'apprentissage du métier, et de proposer et de construire des réponses progressivement. Notamment derrière ça, il y a l'idée, est-ce qu'on doit différencier l'évaluation ou pas ? Et puis il y a d'autres questions évidemment. Connaître le passé de l'élève, est-ce que c'est un avantage ou pas ? Ou est-ce que, alors là, par exemple, dans le secondaire, on a des exemples de témoignages, et y compris de moments d'analyse de pratique où des échanges ont porté, vous savez, sur le fait qu'un élève, un enseignant s'aperçoive trop tard qu'il y avait eu tel événement familial, et s'il l'avait su auparavant, peut-être qu'il aurait pu, alors donc il y a un débat entre est-ce qu'il faut savoir, être informé ou pas. Alors bon, évidemment, derrière ça, il y a la question du secret professionnel ou partagé ou pas, etc. Voilà. Toujours dans les tendances communes, ça c'est aussi une des bizarreries du PowerPoint, mais c'est lié à ma compétence, c'est que tout apparaît en même temps. Moi, ça devrait apparaître ligne par ligne. Une des tendances communes aussi, c'est le fait que le développement professionnel, il est vécu comme une épreuve. Et c'est quand même particulier. Il y a des... j'avais réalisé des travaux dans d'autres secteurs. Dans d'autres secteurs, le développement professionnel n'est pas toujours vécu comme une épreuve, dans ce sens-là. C'est-à-dire que tout se passe comme s'il fallait souffrir pour apprendre le métier. J'exagère un peu, hein. Mais il y a un peu de ça. C'est-à-dire que... Alors, l'épreuve, elle est liée au fait que il y a des visites, vous savez. Bon, elles n'existeront plus d'ici quelques temps, donc le problème sera résolu. Mais il y a des visites pour le moment régulières, donc des visites de stage. Ça, c'est vécu, mais ça, on le trouve dans d'autres formations. Et bon, la relation avec le père-tuteur. Tuteur, c'est la figure du tuteur, parce qu'il y a des appellations différentes, premier et second degré. N'est pas toujours, je mets toujours, très simple. Ça veut dire que parfois, au contraire, elle est précieuse, utile. Elle permet de débloquer des situations. Il y a plein de problèmes professionnels, au sens où j'en parlais tout à l'heure, qui s'instruisent dans cette relation tuteur-stagiaire. Puis il y en a d'autres qui sont des relations plutôt paralysantes. Hein? Donc là, il n'y a pas de règle en la matière, mais lorsque c'est effectivement vécu comme une épreuve, on voit bien qu'il y a aussi cette relation père-tuteur qui intervient. Les discours tenus respectivement par le tuteur et les formateurs ne sont pas toujours congruents. Il y a parfois des désaccords, qu'on pourrait d'ailleurs tout à fait dépasser s'il y avait des lieux de rencontre entre tuteurs et formateurs, par exemple, hein, parce que je crois, par rapport à un certain nombre de témoignages que nous avons recueillis, qu'il y a des événements ou des qui sont vécus comme étant des désaccords qui pourraient tout à fait être résolus s'il y avait des lieux, des espaces de discussion. Mais ça, c'est aussi une question d'articulation et de moment et de où se gère l'articulation entre les deux lieux de formation sur le travail et de formation sur le lieu de travail et de formation à l'IUFM. L'accueil par les pairs dans l'établissement n'est pas toujours, c'est pas systématique, bien sûr et heureusement, n'est pas toujours vécu comme chaleureux. Parfois, les gens disent, alors dans le secondaire, on a beaucoup de témoignages, c'est pas si simple. Je crois que ce qui se joue là, foncièrement, en tout cas, ça revient assez souvent dans les propos qu'on a recueillis, c'est le fait que le regard d'autrui, mais d'un autrui pluriel, dont on ne sait pas forcément quels sont les critères, et quelle est la, comment dire, si ces critères sont tous les mêmes, donc ce regard d'autrui, il pèse énormément et il fait que c'est vécu un peu comme une épreuve. Alors il faut dire aussi que nos derniers travaux de terrain, donc les plus importants, ont été faits à une période quand même qui est, vous savez, dans les UFM, vous le savez mieux que moi, sont sous le coup de changements réguliers, c'est-à-dire il n'y a quasiment pas une année où il n'y a pas un changement important. Bon, c'est vrai qu'il y en a certains qui sont plus importants que d'autres, mais donc c'est normal aussi que du côté de l'institution locale, des institutions locales, il y ait des, il faut que les choses se structurent. Mais du côté des stagiaires, ce sont des sources de perturbations et de difficultés de positionnement. Quelques éléments concernant les singularités. D'abord, des environnements d'apprentissage distincts. Ça apparaît très nettement. Alors bon, en même temps, nous avons des échantillons qui ne sont pas suffisamment importants dans cette première phase pour dire que c'est effectivement une tendance générale, hein, bien entendu. Il va falloir que ça se on va voir si ça se confirme avec l'enquête quantitative. Mais l'idée, c'est que globalement, il y a une tendance qui s'affiche, qui, à mon avis, confirme assez bien ce que l'on sait, c'est-à-dire que dans le premier degré, il y a une tendance on a tendance à considérer que l'environnement est plus, comment dire, à taille plus humaine. Ce sont, bon, même s'il y a des groupes scolaires importants, mais et puis surtout, on est entre pairs identiques. C'est un point important. C'est-à-dire, on fait tous, même si on peut se spécialiser par cycle, mais on fait tous, en gros, le même métier. On n'a pas une différence d'identification à des disciplines différentes, si vous voulez. Hein. Ça, c'est un point extrêmement important parce que du coup, les échanges, c'est en tout cas ce qui nous a été dit, sont beaucoup plus, et les moments d'entraide beaucoup plus importants. Dans le secondaire, c'est moins évident. Ça dépend évidemment des lieux, mais souvent, et on le vit bien sûr les uns les autres, hein, nous, dans les établissements scolaires, nous sommes entre pairs différents. En gros, c'est pas la même chose d'être prof de maths que d'être prof de français, même s'il peut y avoir des rencontres et des échanges, mais bon, c'est tout comment se passe une salle des profs en règle générale. Et du coup, il y a une impression à la fois de solitude plus grande, même si elle peut exister, cette impression de solitude dans le premier degré aussi, pour d'autres raisons. Et donc l'environnement d'apprentissage, il est d'une certaine façon plus restreint. Alors, autre point, je disais tout à l'heure, il y a des problèmes professionnels communs. C'est vrai. Il y en a plus communs que... il y en a plus qui sont communs que différents. Mais il y a des problèmes professionnels différents. C'est-à-dire que quand on écoute et on regarde ce qui se passe dans les moments d'analyse de pratique, et quand on écoute les stagiaires et les jeunes titulaires ensuite, on s'aperçoit qu'ils ne rencontrent pas tout à fait et ils ne se posent pas tout à fait les mêmes questions de façon récurrente. Dans le premier degré, tout se passe comme si la question centrale qui était posée, surtout en deuxième année de formation, c'est-à-dire en année de formation professionnelle à l'IUFM, c'est comment faire autorité, au sens de comment être reconnu comme légitime, comme enseignant ou enseignante légitime auprès des élèves et des parents. C'est une grande question que se posent les stagiaires, et c'est lié au fait, mais je le dirai après, que ce qui structure le sentiment d'être professionnel, un professionnel, si on le formule comme ça, n'est pas la même chose. Dans le premier degré, c'est le fait d'avoir sa classe. Et avoir sa classe, c'est plutôt quand on est titulaire. Avant, on a l'impression de ne pas vraiment être pleinement un enseignant. C'est aussi comment tenir sa classe et comment s'intégrer à l'équipe. Ce sont des questions qui structurent cette fois-ci moins l'exercice du métier, mais plutôt qui structurent l'apprentissage. Vous voyez, ce sont des questions pivots au sujet de l'apprentissage du métier. On se pose plutôt ce type de questions. Dans le second degré, les problèmes professionnels posés ou les questions qui structurent l'apprentissage, c'est comment parler de sa discipline. Comment la transmettre et moins comment faire autorité. Ça apparaît en second, ou rattaché à la question de la transmission de la discipline. Et c'est lié aussi au fait que le sentiment de devenir professionnel ne s'ancre pas sur la même chose, sur le même point, je le dirai tout à l'heure, que dans le premier degré. D'ailleurs, c'est différent d'une discipline à l'autre. Par exemple... si on prend l'anglais et l'espagnol, les professeurs d'anglais et d'espagnol, exemple, hein, parce qu'on avait du matériau à ce sujet, l'un des problèmes posés, c'est la participation individuelle, orale. C'est un des problèmes essentiels des profs de langue étrangère. Donc, problème posé, par exemple, c'est choisir des documents qui ouvrent la parole, donner du sens au silence d'un élève. Qu'est-ce que ça veut dire, le silence d'un élève? Est-ce qu'on doit laisser le silence? Combien de temps? Comment l'interpréter? Mémoriser les interventions orales pour éviter de poser des questions qui sont éventuellement des redites, ou intégrer la note d'oral à la note globale. Comment faire? Vous voyez, c'est là un problème typique aux disciplines... merci. Aux disciplines, donc à l'enseignement des langues, c'est la participation orale. Si on prend un autre exemple, les profs de mathématiques ont tendance à se poser le problème non pas de la participation orale individuelle, mais celle des exercices écrits, c'est-à-dire comment gérer les périodes d'exercices écrits. C'est pas facile pour un prof de maths. Identifier les élèves qui ont besoin d'aide, pas facile à faire. Comment répartir l'aide entre tous ceux qui en ont besoin? Choisir une modalité de correction. Quelle modalité de correction par rapport aux exercices écrits? Envoyer un élève au tableau, etc. Ce sont des questions qui se posent. Alors, on peut en reparler après. C'est relatif à nos échantillons. Il faut voir si ça se confirme par la suite grâce à cette enquête quantitative, mais parce que là on aura beaucoup plus, on aura une masse de données beaucoup plus importante, mais il semble bien que s'agissant du premier degré, finalement ce qui fonde le sentiment de devenir un professionnel, c'est d'avoir sa classe. Et ça se passe, on a sa classe au moment de la titularisation. Autrement dit, on a le sentiment d'être un professionnel de l'enseignement quand on est titulaire, pas encore en formation. Vous allez me dire, c'est évident, mais pour le secondaire, c'est pas pareil. pour les enseignants du secondaire, c'est dès la formation qu'on se sent, bon, encore une fois, c'est un peu à l'emporte-pièce, mais on se sent professionnel de l'enseignement, parce que ça se fonde sur une espèce, si on reprenait l'analyse que fait notamment Rother, d'une espèce de conscience disciplinaire, même s'il développe cette idée plutôt pour les élèves. Donc on est reconnu par le concours comme spécialiste de sa discipline. Et d'ailleurs, je crois que ça explique... Donc on voit bien qu'il y a un ancrage temporel différent du sentiment de devenir un professionnel d'enseignement. Pour certains, c'est à l'issue de la deuxième année de formation, c'est au moment de la titularisation, et pour d'autres, c'est avant la formation professionnelle, pour le secondaire. Absolument, c'est ça. Et ça explique probablement des attitudes différentes à l'égard de l'offre de formation, et puis ça explique probablement que les problèmes professionnels dont je parlais tout à l'heure ne sont pas les mêmes. Il y a un lien à faire, là, avec le, je pense, avec le point précédent. Voilà pour quelques résultats et je vous remercie de votre attention.